Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous évoquons l'avenir de la production de café dans le monde. Avec 2 milliards de consommateurs, le café est l'une des matières les plus échangées au monde après le pétrole. Au réveil, après le repas, tout au long de la journée aussi, au travail, le café est devenu une habitude de vie, une habitude sociale de l'Amérique à la Chine. Mais qu'en est-il dans les plantations qui font face au changement climatique, où les rendements baissent inexorablement, où le café ne fait plus vivre les familles qui se détournent de leurs parcelles, du fait de nombreux intermédiaires aussi. Alors produire moins de café mais de meilleure qualité, est-ce que c'est un modèle économique d'avenir alors que la demande mondiale explose? Vous pouvez bien sûr nous appeler, nous parler de ce que vous voyez autour de vous si vous vivez dans un pays qui produit du café même à petite échelle. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41 et même si vous êtes tout simplement un buveur de café, vous avez la parole. Dites-nous ce que vous pensez de ce que vous buvez. Nous allons en discuter aussi avec nos invités. Christophe Servelle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes torréfacteur, fondateur de Terre de Café, une marque de café de spécialité. Dites-nous déjà, qu'est-ce que ça veut dire une marque de café de spécialité en deux mots?
Alors spécialité, ça vient de cafés qui sont faits de manière spéciale dans les fermes et ça veut dire qu'ils sont faits de manière spéciale pour être de qualité supérieure, si on veut résumer.
Quand je dis torréfacteur, vous êtes aussi surtout un sourceur, c'est-à-dire que vous êtes dans les fermes un tiers de votre temps, de l'Amérique du Sud à l'Afrique de l'Est, et vous publiez un très beau livre qui s'appelle « À l'origine, rencontre en terre de café » aux éditions Apogée, c'est sorti il y a un an, mais toujours d'actualité. Alors certes, les cours du café ont changé, mais c'est à la fois le récit d'une passion et aussi des récits de voyage de l'Éthiopie à la Colombie, dans des fermes, auprès des planteurs de café de grande qualité. Parfois des fermes qui se situent à une journée de piste du goudron, hein, même pas du premier aéroport. Également avec nous, Guillaume David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous, entomologiste spécialiste des insectes et en tant qu'écologue, vous étudiez les interactions entre le milieu naturel et la culture du café, en particulier les insectes ravageurs sur les plants de café. Vous appartenez au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et vous êtes en direct de Montpellier en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Hérault que nous remercions. Nous serons aussi en ligne dans quelques instants avec notre correspondante au Brésil. Sarah Cozzolino, le Brésil, premier producteur mondial de café d'Arabica qui fait face à une baisse de la production. Et puis en toute fin d'émission, un autre sujet, la chronique d'Osman van der Dey, un autre regard sur l'économie du continent et les consommateurs. Aujourd'hui, on parlera de la location de véhicules pour arrondir ses fins de mois en Afrique.
8 milliards de voisins.
La planète se parle.
8 milliards de voisines et de voisins.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Et tout de suite, direction le Brésil, premier producteur de café arabica avec un tiers de la production mondiale. Ce mois-ci, le prix du sac de café, 60 kilos, a dépassé les 400 euros à la Bourse de New York. C'est un record historique. Nous sommes en ligne avec notre correspondante au Brésil. Bonjour Sarah Cozzolino.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors cette hausse des prix est avant tout due au changement climatique?
Oui, entre les mois d'août et septembre, le Brésil a enregistré la plus grande sécheresse de ces 70 dernières années, suivie de pluies intenses au mois d'octobre. Des conditions qui menacent la prochaine saison de café, mais aussi les plantations à plus long terme. Car le café, c'est une plante sensible et particulièrement vulnérable aux variations climatiques. Il est cultivé dans les États du Minas Gerais, de Sao Paulo et de l'Espírito Santo, dans la région sud-est du Brésil, et a besoin de conditions bien spécifiques, d'altitude, de température et des pluies régulières pour donner des fruits. Par exemple, des températures au-dessus des 33 degrés dans la phase reproductive du café peuvent déclencher un stress qui mènera à la perte des fleurs et des fruits. Or, eh bien, c'est la cinquième saison consécutive qui est fragilisée par des événements climatiques extrêmes, des pluies éparses et mal distribuées qui alternent avec des fortes chaleurs, des épisodes de sécheresse et des incendies. Résultat, la récolte brésilienne devrait baisser de près de 5% en 2025. Et selon une étude de l'Université de l'État de Sao Paulo, le pays devrait perdre la moitié de ses terres propices à la culture de café d'ici 2030.
Ouais. C'est la première fois que le café atteint ce type de record de prix ?
Eh bien non, Emmanuel, le monde entier se souvient de l'année 1977 où le café avait atteint des sommets avec des prix équivalents à ceux d'aujourd'hui, plus de $400 le sac de 60 kilos. C'était la conséquence d'une vague de gel qui avait touché le nord de la région du Paraná en juillet 1975 et tué des milliers de pieds de café avec une répercussion sur la bourse et l'exportation mondiale. Mais si on prend en compte l'inflation, la hausse du prix du café aujourd'hui est inférieure à celle exceptionnelle de 1977. Sauf que, selon les spécialistes, elle risque aujourd'hui de se stabiliser, car dans le cas actuel, d'autres facteurs contribuent aussi à cette hausse, comme l'augmentation du coût de production, du transport, du cours du dollar, mais aussi de la consommation. Oui. Les pays asiatiques et les économies émergentes ont augmenté leur consommation de café et les Américains sont devenus les premiers consommateurs au monde. Ils boivent plus de café que n'importe quelle autre boisson, eau comprise.
Y compris l'eau. Alors, quelle solution imaginer pour ce secteur au Brésil ?
Alors, la plus commune, c'est celle de l'irrigation pour permettre d'arroser les plantations même pendant les périodes les plus chères, mais ça reste les périodes les plus sèches, mais ça reste une méthode plus cher, très cher. Rappelons que la majorité des producteurs de café sont des petits producteurs qui appliquent le cahier des charges imposé par les grands groupes. Le problème vient surtout de la monoculture intensive qui rend les cultures de café plus vulnérables au changement climatique et encourage la déforestation. C'est le cas dans le sud de l'État de Bahia, par exemple, où la déforestation a avancé ces dernières années, notamment pour laisser place aux plantations de café. Une des solutions pérennes est à trouver dans l'agroforesterie qui peut permettre, dans une certaine mesure, de s'adapter au changement climatique. Par exemple, en plantant d'autres arbres alliés aux plants de café qui pourront les protéger du vent ou leur faire de l'ombre, en maintenant ainsi l'humidité du sol et en absorbant le carbone. C'est aussi une technique qui peut permettre d'améliorer la pollinisation naturelle qui augmenterait la productivité de 30% selon une étude.
Merci Sarah Cozzolino en direct du Brésil. Les voisins, vous avez la parole si le sujet de la production de café vous concerne. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Good morning, bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Muchas violo.
Buenos dias.
A quoi va les voisins et les voisines?
Christophe Servelle et Guillaume David. Peut-être Guillaume David du CIRAD. D'abord, en quoi le Brésil, le cas du Brésil qu'on vient d'entendre est emblématique des difficultés que traverse la production de café?
Je dirais que c'est symptomatique dans le sens où c'est un bel exemple des aléas climatiques qui vont devenir de plus en plus courants. Enfin, notamment des événements comme El Niño qui du coup perturbent les schémas de l'alternance de pluie et de saison des pluies et de saison sèche. Et du coup, ces événements effectivement de sécheresse prolongée, poussent les agriculteurs à utiliser l'irrigation et comme expliquait votre correspondante, enfin. Ça nécessite de rapporter de l'eau et du coup l'eau coûte cher, c'est toute une infrastructure en plus à mettre en place et donc c'est des contraintes de plus en plus compliquées et surtout l'alternance de sécheresse et voire de vagues de gel où du coup c'est soit pas assez d'eau, soit trop d'eau, les conditions qu'il faut. Quoi.
Dans la majorité des cas dans le monde, le café n'est pas une plante d'irrigation. Ce n'est pas une culture d'irrigation,
non,
le café.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Mais quand c'est cultivé de manière industrielle, comme au Brésil, en monoculture, sur des grandes surfaces, c'est compliqué de faire autrement.
Christophe Servelle, dans votre livre de photos de plantations de forêts, extrêmement bien illustré par Fabrice Le Seigneur, qui est votre complice quand vous partez loin comme ça pour chercher les meilleurs cafés, il y a une photo d'un petit caféier avec ses fleurs blanches au milieu de ce que vous décrivez un peu comme une désolation. Terre sèche, méga plantation en monoculture, sol épuisé, gavé d'engrais de synthèse et de pesticides. Cette photo, elle est au Brésil.
Absolument.
J'aurais à revenir un petit peu sur le Brésil. Si. Alors le Brésil, c'est le symbole un peu de la monoculture, de l'agriculture intensive. Et le Brésil, mais beaucoup d'autres pays, et cette forme d'agriculture n'est pas étrangère au dérèglement climatique dont on parle et au réchauffement climatique. Les trois grands facteurs d'impact qu'on retrouve sur le climat, c'est la déforestation, c'est l'irrigation et c'est la monoculture et l'usage d'intrants. Le Brésil subit le dérèglement climatique de plein fouet. Tous les pays producteurs subissent le dérèglement climatique. Mais ce n'est pas le pays le plus à plaindre, puisque c'est le seul pays, et je dis bien le seul pays aujourd'hui, où les gens qui travaillent dans le café vivent de manière digne. Donc, le problème qu'on va évoquer là...
Donc, ça a été un modèle viable, en fait, jusqu'à maintenant.
C'est viable, mais c'est extrêmement destructeur. C'est-à-dire qu'on tue tout autour du caféier pour que le caféier s'épanouisse.
Mais en même temps, la production, elle a diminué, certes, mais quoi, de 5%? Enfin, que ça non plus pour l'instant. Ça a fait flamber les cours.
Le Brésil reste le premier de loin. Hein, c'est la moitié de l'Arabica produit, donc c'est le premier producteur mondial d'Arabica. Mais c'est aussi celui qui a les coûts de production les moins élevés. Donc c'est pour ça que je dis c'est les moins à plaindre, parce que en ce moment, à qui profite la hausse des cours? C'est surtout aux grandes méga plantations brésiliennes.
La grosse part, Guillaume David, de la valorisation, elle ne se fait pas à la production, sinon dans les autres pays, il faut le rappeler.
Non, du tout. La plus grosse part de valeur ajoutée, elle intervient au niveau du négoce, en fait. Enfin, c'est quand...
une fois que le café sort du champ, en fait.
Enfin, même quand il est sorti du pays, même, c'est une fois qu'il est négocié, qu'il arrive, que c'est négocié à la bourse, c'est des contrats à terme, c'est... Oui.
Alors ceci, à l'inverse, la Colombie, troisième producteur mondial, a enregistré sa meilleure récolte depuis 5 ans, 2024, donc on pourrait voir aussi le verre à moitié plein. Christophe Servel.
Alors, en fait, le vrai souci, on parle de cours haut, mais par exemple, la Colombie, en ce moment, le cours du café qui est à 300... Aujourd'hui, on est à 325 cents la livre, rémunère juste le coût de production. Ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que ce fameux marché qui est dicté par le coût de production brésilien, qui est dicté par les trois plus grands négociants de café torréfacteurs mondialisés, est dicté par ça et pas par le coût de production. C'est-à-dire que les petits producteurs ne fixent pas eux-mêmes le coût de production, ce qui est différent dans le café de spécialité, je pense qu'on en parlera après. Mais aujourd'hui, le cours de bourse ne reflète pas le véritable coût de production du café chez les petits et moyens producteurs. Il faut savoir quand même que 80% des producteurs de café dans le monde sont des producteurs qui ont moins de 5 hectares. Donc ce cours de café ne représente pas 80% des petits producteurs.
Ouais. Mais alors, qu'en est-il du prix
de l'agriculture familiale?
Oui, c'est ça, de l'agriculture familiale, avec souvent pas forcément les installations nécessaires pour sécher le café, etc. Donc ils sont dépendants aussi des coopératives et pas forcément dans le bon sens du terme.
Oui, et pourquoi? Parce que aussi le prix qu'ils sont payés ne leur permet pas d'investir, ne leur permet pas de penser durabilité déjà, et ne leur permet pas d'investir dans leurs propres moyens de production.
Alors vous nous dites tous les deux que finalement la flambée des prix ne profite pas aux producteurs. Qu'en est-il du prix d'un paquet de café lambda, Christophe Servel? Les grands distributeurs réduisent leurs marges pour ne pas faire exploser le prix du café, ou qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle?
Il y a un moment où on ne peut plus réduire sa marge. Donc les grands torréfacteurs sont pressés par les grands distributeurs pour ne pas augmenter, puisque les grands distributeurs, leur cheval de bataille, c'est le prix, c'est pas du tout la qualité, hein. Ils s'en fichent de ça, c'est le prix. Donc on menace les grands torréfacteurs de déréférencement. Mais il y a un moment, on peut plus baisser ses marges. Donc si le prix du café augmente, alors on use de petites stratégies, on met plus 250 grammes dans un paquet de café, mais 210, donc le prix, voilà. Mais le prix au kilo, lui, il augmente.
C'est-à-dire que pour nous consommateurs, on n'a pas encore vu grand-chose entre guillemets.
Exactement.
De ce qui nous attend.
Exactement. Je pense que les cours vont rester hauts. Je pense que les cours vont continuer à monter. Et je pense que le café pas cher à profusion, c'est le début de la fin.
Et les rendements vont continuer à baisser.
Et les rendements ne peuvent pas continuer à augmenter. On est dans un cul-de-sac, en fait. On est à la fin d'un système.
Alors vous restez avec nous, on va parler tous les deux, Christophe Servelle et Guillaume David, nous allons voir les conséquences réelles du changement climatique et de la flambée des prix sur les producteurs, sur l'ensemble de la filière. Produire moins mais mieux, c'est évidemment une proposition alléchante, mais est-ce que c'est un modèle d'avenir alors que la demande mondiale de café ne cesse d'augmenter? Dans ces cas-là, est-ce qu'on va avoir vraiment les deux extrémités qui vont cohabiter, le mauvais café pas cher, le très bon café réservé aux plus riches? Vous nous appelez en tout cas, même si vous êtes consommateur et évidemment producteur, 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après cette inspiration musicale autour d'un petit café bien serré. Old Laf et Monsieur D.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Où est-ce que tu vas?
Me crie mon aimé.
Prenons un kawa, je viens de m'élever.
Et tant en avance, et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre,
fort comme vous l'aimez.
Ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent.
Détends-toi René, prends un bon cigare et un petit café.
Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh mais moi j'ai envie de sauter. Oh je fais tout Paris, oh, et puis je vois un troquet. Oh je commande un déca, mais un café inné. Ma secrétaire me fait.
Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété.
Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, mais avant, un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit:
vous avez l'air, s'il vous plaît.
Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison, puis je me sers. Devinez.
Papa, mon papa, en classe, je suis premier.
T'as, mais quoi? Tu en train de me faire chier. Oh, mais qu'il est con, ce gosse. Et en plus, il se met à chialer.
Nous sommes en direct sur RFI, 8 milliards de voisins, et nous discutons de l'avenir du café alors que on observe une flambée des prix. On a entendu notre correspondante au Brésil sur les mauvaises récoltes 2024 au Brésil. On en discute avec nos invités, Christophe Servelle qui est torréfacteur, sourceur de café, fondateur de Terre de Café, et Guillaume David, entomologiste, spécialiste des maladies sur les plants de café au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Alors bien évidemment, nous parlons des effets du changement climatique hein, sur la production, sur le rendement du café et probablement dans un avenir très proche sur les prix des paquets de café, ce qui nous concerne tous puisque la demande mondiale explose. Christophe Servelle, je voudrais revenir sur, parce que vous êtes un amoureux du café, hein, vous publiez Rencontres en terre de café, vous passez un tiers de votre temps dans les fermes. Des caféiers. Comme tous les invités qui passent sur RFI, ben on vous a proposé forcément un café. Hein. Ça fait partie d'une tradition d'accueil. Dans d'autres pays, c'est du thé. D'ailleurs, autrefois en Chine, c'était du thé. Et puis maintenant, ben, les Chinois veulent tous du café. Vous avez fait un effort énorme d'accepter notre café, qui est le café de l'entreprise. Hein. Alors, il est comment ce café, là? Vous avez bu une gorgée?
J'aurais pas paraître trop snob hein, quand même, mais il m'est apparu comme un café un peu standard qui inonde le marché, c'est-à-dire c'est très amer, ça a surtout un goût de brûlé, c'est plat. J'ai même de l'aigreur, donc on passe d'un côté trop amer à un côté acide, mais pas une belle acidité. Donc c'est pour moi un café qui sent surtout le charbon et qui n'a aucune vie. C'est un café qui est mort.
Quand vous dites un café brûlé, ça sert à quoi ?
Brûlé à la torréfaction. Mmh. C'est-à-dire on brûle les cafés à la torréfaction, on les torréfie très très fort pour gommer les défauts, parce qu'un café à défaut, ça peut sentir l'oignon, la patate, le pourri, le médicament. C'est ça les défauts qu'on trouve dans les cafés industriels. Oui. Et donc pour égaliser tout ça, pour gommer les défauts et avoir toujours le même goût, et en plus c'est pratique parce que ça devient plus soluble, donc c'est plus facile à extraire, on brûle les cafés.
Masquer le goût de pourri en brûlant le café. Voilà, on découvre des choses. C'est pourtant une capsule qui vient d'un des leaders mondiaux de café en capsule, et sur la boîte c'est écrit 100% arabica, et c'est même écrit en italien parce que ça fait plus chic, con note di frutta secca, c'est avec des notes de fruits secs. Vous les avez pas retrouvées, les notes de fruits secs?
Fruits secs bien brûlés.
La majorité du café que l'on boit, Guillaume David, c'est du mauvais café?
Ce que vous venez de dire, c'est surtout standardisé en fait. Enfin, c'est du coup torréfié fort, homogénéisé et standardisé. Enfin, la plupart des gens ils boivent un café pour se réveiller le matin, pour une pause. Ils sont pas forcément sensibilisés à toute la gamme aromatique qu'on peut retrouver dans des arabicas de très haute qualité. Ils veulent un café. Enfin. Un café qui a le goût de café, du coup, c'est un café qu'on a dans les bars, un café très torréfié, standardisé.
Mais alors, qu'est-ce qui fait, Christophe Servelle, un bon et un mauvais café? Le mauvais café, vous l'avez décrit. Hein,
c'est pas ça,
on a masqué son goût.
C'est pas ça le goût du café. On cherche le goût du café.
Le vrai goût du café,
C'est très varié. Hein. Il y a plus de 7000 molécules aromatiques dans l'arabica.
Il est très peu amer, contrairement à ce qu'on pense.
Ça ne doit pas être amer. Un bon café, bien torréfé, bien fait, c'est équilibré. C'est un peu amer, c'est un peu acide, c'est sucré. Enfin, il y a toutes les composantes du goût dans un café. Et ça peut avoir des notes de chocolat, ça peut avoir des notes de framboise, de citron, de fleurs blanches. C'est extrêmement complexe. Et je pense qu'on a tout dit, quand on dit que ça réveille le matin, on a tout dit, l'industrie a fait en sorte de pousser la consommation, on devient caféolique, si je puis dire, et on boit du café pour la caféine et pas pour le plaisir gustatif que ça propose. Et en plus de cela, si on va jusqu'au bout de la caféine, mieux le café est fait, et plus cet effet de bien-être que procure la caféine, de se réveiller, etc., est agréable.
Mais alors en plus, c'est bon pour la santé. Donc effectivement, boire 3-4 cafés par jour, ce n'est pas du tout contre-indiqué. Donc c'est pour, vous le disiez d'ailleurs, Guillaume David, ce n'est pas un mauvais café en tant que mauvais café pour la santé, bien évidemment. Il est mauvais en termes de goût. Néanmoins, pour les producteurs, Guillaume David, il vaut mieux faire du volume ou de la qualité en termes de revenus financiers aujourd'hui?
Du volume.
Sans hésitation. Même si les volumes baissent.
Disons que... ça dépend pour qui, mais...
Pour les producteurs.
Ce qu'on disait tout à l'heure, les gros industriels brésiliens qui ont des plantations énormes, ça vaut plus le coup de produire...
Mais le Brésil, ça n'est qu'un tiers de la production.
Pour les petits producteurs... pour les petits producteurs, si produire du café de qualité... Par exemple, le CIRAD a différents projets où on travaille sur ça, justement, sur la qualité. En fait, c'est, redonner du pouvoir aux agriculteurs, en fait. S'ils peuvent travailler sur un cahier des charges qui leur permette d'avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement, de monter en gamme, ça leur permet d'accéder à différents marchés.
Comment au CIRAD vous travaillez au niveau des producteurs et de la filière, que ce soit en Afrique de l'Est, en Amérique centrale, au Vietnam, qui le Vietnam est vraiment un producteur de café robusta, donc entre guillemets considéré comme plus bas de gamme. Comment vous travaillez avec ces producteurs? Quelle est la démonstration, le raisonnement que vous menez avec les producteurs qui, eux, ce qu'ils veulent, quand on voit un pays comme la Colombie où on a 540 000 familles qui dépendent de la culture du café pour leur subsistance, comment on fait pour leur dire il faut profiter des années fastes, parce que là ils ont fait de bonnes récoltes, pour s'adapter à un avenir qui s'annonce beaucoup plus morose? Comment vous travaillez concrètement, Guillaume David?
Le CIRAD opère avec des partenaires locaux, donc souvent des instituts nationaux comme l'équivalent de l'INRA en France, enfin, qui travaillent sur des problèmes agronomiques et tout ça. Et donc, en passant par l'intermédiaire de ces instituts-là, en basant des agents sur le terrain, en montant des projets en collaboration avec des instituts comme ça ou avec des universités locales, on peut accéder.
Donnez-nous des exemples précis, Guillaume David, allez-y, hein, parce que la pendule tourne inexorablement, dites-nous.
Des exemples, enfin, bon, par exemple, je sais pas, je peux vous donner un exemple. On a un projet en Ouganda, comme ça, où on travaille sur montrer comment l'agroforesterie peut permettre de contrer les effets du changement climatique. Bon, c'est sur du robusta. On travaille avec des agriculteurs, mais on travaille avec des instituts locaux. Et donc la recherche est faite sur place dans des instituts locaux. On encadre des étudiants qui vont sur le terrain, qui font des mesures. Et il y a des mesures de qualité qui peuvent être, qui sont faites. Et donc les agriculteurs sont formés. Il y a des ateliers qui sont organisés. On leur explique. Mais les pouvoirs publics dans ces pays-là sont conscients que augmenter en qualité leur permet de soit d'améliorer leur industrie, soit d'accéder à différents marchés. Enfin, ça, il y a rarement besoin vraiment de les convaincre.
Alors justement, on a des messages d'auditeurs. Robert, qui est à Bujumbura, au Burundi, qui nous dit ici au Burundi, c'est le gouvernement qui fixe le prix du café. Et ce prix est inférieur aux produits de première nécessité comme les haricots, le riz, les bananes. Cultiver le café, donc moins rentable pour les agriculteurs qui abandonnent la culture. J'ai aussi un message d'Ibrahima, planteur de café à Adzopé, qui est à une centaine de kilomètres d'Abidjan, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Il nous dit, Ibrahima, j'ai abandonné la culture du café en 2010 parce qu'elle n'était plus rentable. Pourtant, le café se cultive bien, se vend bien, en tout cas en bord champ, mais il n'y a qu'une récolte par an et les autorités ne soutiennent pas les planteurs. Les gens cultivent eux-mêmes le café qu'ils consomment sur leur parcelle. On a remplacé le café par le cacao parce que là, on peut faire jusqu'à 3 récoltes par an. Il faut quand même dire à la décharge du gouvernement que maintenant les planteurs bénéficient pour leur famille d'une couverture maladie universelle sans contrepartie financière. Il y a eu des efforts de fait, mais il est vrai que la situation est très difficile, tout comme le cacao aussi d'ailleurs. Christophe Servelle, qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces problématiques-là ?
Ça ramène au problème fondamental du café depuis 200 ans. Depuis qu'on l'a mondialisé, depuis qu'on en a fait un produit de grande consommation, c'est que le café n'est pas payé assez cher pour que les producteurs et toutes les communautés qui vont autour puissent en vivre dignement. Et aujourd'hui, vivre dignement, c'est être capable de te soigner, d'envoyer ses enfants à l'école, à l'université, et être capable d'investir dans son propre outil de production. Donc la filière dite conventionnelle telle qu'on la connaît vit une crise sans précédent. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se demander comment on va encore avoir du café dans 50 ans. Mais vraiment, c'est ça le problème. Et donc, sans une remise en question totale de la filière, sans une remise en question des producteurs qui doivent réfléchir avec les torréfacteurs, pour le coup, à comment on est résilient face à un changement climatique, il n'y aura plus de café réellement, vraiment, dans 50, 60, 70 ans. Quand vous posez la question est-ce que c'est bien de faire la qualité, moi, je vous donne mon expérience personnel, qui est pour le coup la très concrète, c'est que les seuls producteurs, hormis les grands Brésiliens et les grands Vietnamiens, c'est les seuls producteurs aujourd'hui qui gagnent leur vie.
Qui s'en sortent,
oui. Et certains très bien, j'insiste là-dessus, sont des producteurs qui se sont dit à un moment, je change mon modèle ou je reprends la ferme de papa et de maman et je change le modèle et je fais de la qualité et je plante des arbres et je vais voyager et je vais à la rencontre des torréfacteurs et je vais à la rencontre même de mes consommateurs, puisque ça, c'est tout à fait nouveau dans le café. C'est-à-dire qu'on oublie que le café est un produit de terroir. Et donc, on oublie le terroir. Et pourquoi, à mon avis, on a oublié le terroir ? C'est qu'il n'y a aucun lien entre les consommateurs, ici aux États-Unis, et les producteurs. On ne sait pas. Poser la question dans la rue, personne ne sait où est fait le café, peu de gens, et surtout comment on fait le café. Et donc c'est là le nœud du problème, c'est de reconnecter la consommation au terroir. Et la consommation, les consommateurs ont un grand rôle à jouer. Le lien entre le terroir et les consommateurs est déterminant sur la manière dont on doit concevoir le café. Et je pense qu'il faut qu'on change la représentation qu'on a du café, ça n'est pas un produit de masse. Je pense que ça n'est pas un produit de commodité. On en a fait ça, mais ça ne s'y prête pas.
Donc il faut arrêter de vouloir se réveiller avec du café pour être en forme. Il faut trouver autre chose et réserver le café, un très bon café, à certains moments beaucoup plus rares.
Mais
c'est un peu ça que vous nous dites.
Le café, à l'instar d'un très grand vin ou, je ne sais pas moi, d'une très belle côte de bœuf, procurer un plaisir intense. Un café, deux cafés, trois cafés par jour, ça suffit. On boit le café n'importe comment en France et partout ailleurs. Et ça n'est pas vital. Pourquoi on en fait un produit de commodité ? Est-ce qu'on a besoin de café pour vivre ? Non.
Le cas, vous qui passez un tiers de votre temps dans les plantations, le cas de l'Éthiopie, c'est un pays intéressant parce qu'on a aussi dans l'idée, vous dites que c'est le grand pays du café dans les forêts, dans des endroits incroyables que vous décrivez dans votre livre. Mais il y a aussi du café de masse en Éthiopie. En quoi c'est un pays emblématique pour peut-être réfléchir à l'avenir ?
Alors, en Éthiopie, vous avez toute la dimension du terroir. C'est-à-dire que le café vient d'Éthiopie. Il vient des hautes forêts montagnardes. Donc, le café est un arbuste de forêt. On consomme du café depuis des temps immémoriaux en Éthiopie. Ça a été au départ une énergie pour les chasseurs. Ça rythme tous les rituels de passage. Donc c'est profondément inscrit dans la culture. L'Éthiopie, depuis toujours, est un pays un peu à l'écart en Afrique. Et donc, de ce fait, on fait encore beaucoup de café de forêt. Les forêts sont relativement préservées en Éthiopie.
Quand on parle de forêt, c'est pas juste de l'agroforesterie avec des petits troncs d'arbres. Ce sont de vrais arbres, parfois centenaires.
Voilà, je vous donne l'agroforesterie simple ou moyenne, c'est on plante des caféiers et on plante des arbres par-dessus. Certaines densités, ça va définir le niveau d'agroforesterie. Le café de forêt, c'est différent. C'est on a des forêts et on plante des caféiers en dessous. Et donc, on a au moins 60% trois strates.
Il faut quand même 60% d'ensoleillement.
On va entretenir la canopée pour qu'il y ait 60% d'ensoleillement. Mais un café de forêt, c'est au moins trois strates de canopée, dont le caféier fait partie. Et c'est un écosystème qui vit sur lui-même. D'ailleurs, à mon avis, enfin, ça n'est pas que mon avis, l'avenir de la résilience de l'agriculture va être de savoir comment on peut intensifier la production de manière écologique et notamment sous forêt.
Et sans abîmer la forêt, parce que là, c'est un système qui n'abîme pas la forêt.
Absolument.
On ne coupe pas d'arbres aussi quand même pour laisser passer les rayons du soleil.
Si, faut être honnête, ça abîme la forêt. C'est-à-dire qu'on passe d'une forêt primaire à une forêt secondaire, mais malgré tout, ça préserve la forêt. Ça, c'est de l'anti-déforestation que de faire du café bien payé, bien rémunéré. Donner un coût au café qui soit supérieur au coût de l'abattage des arbres, C'est l'enjeu de la consommation du café de forêt.
Mais là, dans ces fermes-là, la culture du café n'est pas une culture d'appoint pour les familles ?
Alors c'est intéressant, c'est la culture vivrière. C'est-à-dire que c'est la culture de rente, la culture vivrière dans une ferme. On va faire un peu d'élevage, on va faire des légumes, des fruits. Mais le café, on le consomme un peu, mais on le vend. C'est ça qui va rapporter, c'est une culture de rapport en Éthiopie. Et ça, c'est très très important.
La moyenne d'âge mondiale des planteurs dans le monde, c'est 55 ans.
Même plus, 59 ans. Il n'y a pas de transmission.
Comment on peut donner envie aujourd'hui aux jeunes générations de se lancer dans la culture du café ? Alors vous êtes un passionné de café, vous vendez du café très haut de gamme, très cher, et vous travaillez donc avec des producteurs qui font du très haut de gamme aussi et qui font la démonstration que finalement ils vivent mieux qu'avant quand ils cherchaient du rendement.
Alors on ne vend
hormis
pas,
le cas du Brésil.
On ne vend pas que des cafés très chers.
Vous vendez quoi ? 3-4 fois plus cher qu'un paquet de café en supermarché ?
Pas du tout. Il y a des paquets de chez nous à 10 euros. Alors ça peut paraître cher quand on a l'habitude d'acheter son paquet. Alors, le café à 4-5 euros, c'est fini. Il faut vraiment le trouver. Il faut vraiment être courageux pour boire ça. Mais non, on vend pas forcément si cher que ça. Et si on rapporte au coût d'une capsule, capsule bien connue en aluminium, c'est bien moins cher que ça.
Ça donc, au kilo, donc, le café de la capsule,
vraiment,
ça se calcule. En
tout
effet.
Est relatif. Si on boit un peu plus raisonnablement et si on arrête de boire de la capsule, on est bien moins cher que le café
de
supermarché.
Mais dans la célèbre capsule, on nous dit que ce sont des grands crus à l'intérieur.
Il faudrait avoir un peu de temps.
On vous le dit, mais après...
Merci.
On le dit, ouais. C'est bien de le dire. Il suffit de le dire souvent, d'ailleurs.
Il y a une capsule,
non, mais
un pays derrière.
Les capsules, pour le coup, sont... Ouais, d'accord, mais ça reste quand même assez... Enfin, c'est quand même très standardisé. Enfin, vous voyez, si vous achetez la même capsule du même pays sur trois années différentes, la capsule va avoir le même goût. Alors, c'est un produit industriel. Après, il est quand même, enfin, ils ont différentes qualités, mais le café, enfin, si vous achetez du café de spécialité, normalement, c'est comme le vin. Tous les ans, ça sera différent.
Alors justement, on va parler de l'avenir, hein, parce que vous nous décrivez tout de même un avenir pas forcément sombre, mais il va falloir quand même se préparer à un gros changement dans nos habitudes de buveurs de café. On en discute dans quelques secondes.
8 milliards de voisins.
Parce que les pays les plus éloignés aujourd'hui, nous sommes des voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
Alors, l'avenir, avec une baisse de la production mondiale dans les années à venir, est-ce que la tendance va se renforcer, c'est-à-dire un café, deux mondes diamétralement opposés? Est-ce qu'on va revenir pour le café pas cher, le bon vieux Robusta, qui était ce qu'on buvait dans les années 60, hein, et puis, à l'autre extrémité, des grands crus, très chers, pour des clients fortunés, comment, Guillaume David, vous, qui êtes chercheur au CIRAD, vous n'avez pas d'intérêt économique dans le café, comment vous voyez l'avenir? Rapidement, quelques phrases.
Alors non, on ne reviendra pas au Robusta d'avant. Enfin, alors la part du Robusta dans la consommation va augmenter, c'est sûr, puisqu'en fait, c'est ce qu'on expliquait un peu au début. Enfin, avec le changement climatique, va y avoir une réduction des surfaces cultivées d'Arabica, puisque c'est en altitude, et du coup, si la température augmente de manière... évidente, enfin, en fait, les zones vont se rétracter en hauteur.
Et donc, ce sera plus favorable au Robusta.
Bah, les zones de basse altitude qui sont favorables au Robusta, oui et non, parce que, enfin, en fait, les zones où le Robusta sera cultivable vont augmenter. Après, le Robusta est plus sensible à la sécheresse. Et par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, au Brésil, il y a des périodes de sécheresse de plus en plus régulières. C'est pareil au Vietnam. Il y a eu des périodes de sécheresse, des fortes pluies. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que le prix a augmenté, parce que du coup, le Brésil et le Vietnam, qui sont les deux plus gros producteurs, ont tous les deux été impactés.
Le Vietnam, qui est premier producteur de Robusta.
Justement, avec des solutions comme de l'agroforesterie, par exemple, le CIRAD, dans un projet au Vietnam, a pu démontrer que du Robusta sous ombrage, on pouvait réduire de 30% les besoins en eau et de 40% les besoins d'irrigation. Donc, enfin, il y a des. L'agroforesterie peut permettre, donc, du coup, de réduire l'irrigation, de réduire pas mal de choses, enfin, de réduire pas mal d'intrants dans ces cultures. Et ça permet aussi de. L'agroforesterie peut permettre aussi, pour le coup, pour l'arabica, de permettre aux grains d'avoir plus de temps pour maturer et, du coup, d'améliorer la qualité. Et
Christophe,
il y a pas mal de solutions comme ça à mettre en place. Et bon, il y a pas mal d'équipes dans le monde, de gens, de pays qui travaillent pour améliorer la qualité du Robusta. Donc je pense quand même que... Personnellement, j'ai bu des Robusta qui n'étaient pas si mauvais. Il y en a qui sont quand même
si
bons.
Donc, il faut préciser qu'il y a un fonds mondial de soutien aujourd'hui public-privé de 10 milliards d'euros sur 10 ans qui a été créé pour aider les producteurs de café à s'adapter au changement climatique. Donc, il y a des financements qui se débloquent pour travailler sur toutes ces solutions que vous énoncez. Néanmoins, alors Christophe Servelle, je sais que vous vouliez revenir sur qu'est-ce qui peut donner envie quand on fait le paysage actuel du café, qui est quand même assez morose, enfin, sauf pour certains, évidemment, les intermédiaires avec la flambée des prix. Mais qu'est-ce qui peut donner envie de cultiver du café aujourd'hui?
La demande, le public. Il se passe quelque chose de tout à fait nouveau depuis déjà une vingtaine d'années aux États-Unis, en Australie, mais depuis réellement 10 ans en France. C'est qu'on a une montée en gamme de la consommation. Et elle est inexorable. Alors, c'est le café de spécialité.
À commencer par les États-Unis.
Oui, absolument. On parle café de spécialité, ça n'est pas que des cafés chers. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce que c'est, encore une fois, quand on fait un rapport qualité-prix, c'est pas si cher que ça. Mais surtout, aux États-Unis, c'est déjà 20% du marché. Donc c'est énorme. Dans les pays, en Scandinavie, c'est 15. En France, moi, je le vis au quotidien. Terre de café, ça a 15 ans. C'était compliqué au début. Et aujourd'hui, on pense que le café de spécialité, en tout cas de café de terroir de qualité, on va dire, ça prend 15% par an. Donc, la montée en gamme est générale. Il y a de plus en plus de coffee shops. Les bistrots parisiens ne vendent plus de café. Il faut bien le savoir. C'est un peu triste parce que ça fait partie de notre culture. Mais les gens se détournent. Et notamment les jeunes, on ne va plus boire un café au bistrot. On va dans des endroits spécialisés qui s'appellent des coffee shops aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, la consommation change. Les lieux de consommation changent. Les habitudes habitudes de consommation de change. Et ce qui l'emporte aujourd'hui, c'est la qualité. Donc, moi, les producteurs avec qui on travaille, ils sont ravis de ça. On est là pour faire des programmes avec eux. Il faut absolument plus partager la valeur ajoutée au café. Tout à l'heure, vous en parliez, on en parlait. La valeur ajoutée...
Et sortir de la mondialisation, finalement.
90% de la valeur ajoutée, ce sont le négoce, les négociants, les grands torréfacteurs et la grande distribution. D'accord ?
Ça, il faut en changer. Ce n'est pas que des producteurs avec qui vous travaillez, qui, eux, finalement, se travaillent hors bourse internationale.
Exactement.
D'une certaine manière.
On ne travaille pas... En fait, c'est simple. Hein. On achète le café, son coût de production, la marge qui intègre ou pas la durabilité. Ça, c'est le choix qu'on fait avec les producteurs. Et voilà, on paye son café le vrai prix.
Christophe Servelle, il nous reste quelques secondes. Je voudrais que vous nous donniez 2 ou 3 conseils pour boire un meilleur café sans exploser son budget. Je veux dire, en termes de cafetière, dosage, température de l'eau, quelques conseils.
Alors, le premier conseil, c'est de pousser la porte d'un torréfacteur. C'est un métier en pleine renaissance. Il n'y en avait plus beaucoup, il y en a beaucoup dans les petites, grandes villes, les villages, etc. Donc, poussez la porte d'un torréfacteur, demandez-lui des conseils, achetez du café en grain, achetez un petit moulin, moulez-le vous-même, parce que c'est ça, un café, ça se consomme frais.
Et ensuite, la cafetière.
Toutes les cafetières sont bien, il faut que votre mouture soit adaptée et que votre torréfacteur vous donne la petite recette, 6 grammes de café pour une tasse, 12 grammes pour une tasse, etc.
Et la température de l'eau.
Et la température, très important, moins de 95 degrés, et surtout une eau qui soit à minima filtrée, parce qu'un café, c'est avant tout de l'eau.
Merci à vous, Christophe Servelle, torréfacteur, fondateur de Terre de Café, marque de café de spécialité. Vous publiez à l'origine Rencontre en Terre de Café aux éditions Apogée. Merci à vous, Guillaume David. Du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique. Dans quelques instants, ce sera la chronique d'Osman van der Dey, un autre regard sur l'économie, sur les consommateurs. Il va nous parler de la location de véhicules pour arrondir ses fins de mois sur le continent africain. Mais tout de suite, en playlist RFI ce mois-ci, Zazie Kaffa et Aguero Banks, extrait du dernier album avec cette chanson « Bad Habit ».
Yeah. Bolo ayin wonna we awolo
Zazie boy
I won't go church but puna no be for the hood and akpo moji me dey lefe go in the road can't tell mom say money no dey I won't go school btc no be no time for abc when the hustle pay we go bolo keep we won't link up money we ro be funds day with the burn on the door I'm the next to sit on the throne. Again, man, we go turn up the show. Okay, I'm on a band. And I hope that you know. I'm active for money, matter. See men, the party scatter. Big dream, but I trust Allah. I get you, man, I'm my backstabber. Yeah. And trying to hurt my guys. Any reason to bless my mom. Smart work and my heart is pure. I'm a libro, if you walk, go shop.
Many Atlantic since last week, yes, I was. And I know there were ups, no, no, we will put my matter, Nisi Kadada. Nature, the matter, me, who get no, no, we back then, Mona Bada. And all the same people, ni Buluma, but back then, who got in Akada. But I'm alone, he hate it, who got love, my brother, you know, on a long ride. Like a joy, be on a sunrise, and he ain't even happen, a ghost time. Let them on Bongo, Bolum, them say, if you change, and me, don't cry. Make a tongue with this bag, all our enemies don't die.
chronique d'Haussmann van der Dey, un autre regard sur l'économie du continent. Bonjour Haussmann.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, vous nous parlez du business de la location de voitures. Parmi les 5 pays qui ont le plus de véhicules immatriculés, on retrouve la Côte d'Ivoire avec plus d'1 500 000 véhicules ou encore la RDC avec plus de 2 millions de véhicules immatriculés.
Exactement. Ce sont des chiffres qui suivent l'augmentation de la classe moyenne. 400 millions d'Africains font partie de cette classe selon la Banque africaine de développement. Avec cette croissance, les ventes de véhicules neufs augmentent. Selon la BAD, on a 1,5 million de nouveaux véhicules par an. Un très très gros chiffre. Certaines familles peuvent posséder jusqu'à 4 voitures. Certaines d'entre elles ne sont que très peu utilisées. Mais saviez-vous qu'au lieu de la laisser dormir au garage, vous pouvez gagner de l'argent avec.
Ouais, et il vaut mieux parce qu'acheter un véhicule neuf sur le continent africain, il faut vraiment avoir des moyens tellement ça coûte cher, ne serait-ce que les frais de douane. Avec l'assurance aussi, l'entretien, si on n'utilise pas sa voiture, bah on perd de l'argent. Donc comment gagner de l'argent avec sa voiture ?
Eh bien, voici ce que je vous propose. Vous pouvez louer votre voiture et cela tout en gardant votre statut de particulier. Plusieurs plateformes ont mis cela en place sur le continent africain. Il y a des pages Facebook comme location de voiture entre particuliers à Kinshasa par exemple, ou le site Aoko, une plateforme ivoirienne. Pour vous inscrire, il faut vous munir des papiers du véhicule et surtout faire des photos de celui-ci. Ensuite, c'est la plateforme qui se charge du reste. Il vous envoie une personne pour vérifier votre voiture. Ouais. Pour le prix, il se base sur la cote Argus de celle-ci et son état. Vous pouvez aussi louer votre voiture vous-même. C'est le cas de Madong, un ingénieur abidjanais qui loue ses véhicules. Il a commencé il y a 5 mois et son principal client est une entreprise.
Aujourd'hui, je loue principalement 2 véhicules, donc soit un Range Rover Discovery. Il est un peu vieux quand même. C'est un véhicule de 2016 que je loue entre 50 et 60 000. D'accord. Sinon, je loue un Grand Vitara, donc un petit SUV, que je loue généralement autour de 45 000, 40 000, 45 000. D'accord. Aujourd'hui, je passe principalement par une entreprise parce que c'est plus simple en termes de gestion.
Bon, j'ai compris. Un véhicule de 2016, on a une vieille bagnole, en gros.
Enfin, pour lui. Hein.
Est-ce que c'est pas dangereux de louer sa voiture personnelle tout de même ?
Effectivement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut prendre des précautions. Prenez déjà une bonne assurance, car vous ne savez jamais à qui vous louez votre véhicule, déjà. Il en faut une qui couvre les conducteurs multiples, notamment en cas d'accident. N'ayez crainte, il y a de nombreuses assurances qui s'adaptent à votre business. De plus, sachez qu'il est important d'avoir un garage vraiment bien sécurisé ou un autre local pour stocker vos voitures, car les vols sont monnaie courante. Mais aujourd'hui, louer sa voiture est à la portée de tous.
C'est presque un jeu d'enfant. Encore faut-il avoir la voiture en question.
Exactement.
Merci Haussmann van der Dey. On vous retrouve votre chronique sur la page des 8 milliards de voisins, RFI.fr. À très bientôt Haussmann.
À très bientôt.
8 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Salut RFI, j'espère que vous allez bien.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Big up, c'est Alfred depuis Libreville au Gabon.
Les voisins, c'est vrai qu'on n'a pas la même porte, mais on vit dans le même environnement. On est tous ensemble en fait.
Et merci à l'équipe qui prépare cette émission tous les jours de la semaine. Juliette Brault, Delphine Cachin, Romain Dubrac, Victor Hull était aujourd'hui à la technique, Thibaut Matta, Tom Malky et Pauline Berthélémy. On se retrouve demain en direct, même heure, même endroit pour 8 milliards de voisins. L'émission sera consacrée à vos recherches d'emploi. Si vous êtes jeune diplômé sur le continent africain, vous nous appelez pour poser vos questions à nos spécialistes qui regarderont aussi bien sûr vos CV. Notre compte WhatsApp, c'est toujours le même, vous pouvez bien sûr poster vos CV et poser vos questions précises. 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique.